J'aimerais vous parler ce matin, vous inciter à douter. Ne me jetez pas des pierres. Je voudrais vous inciter ce matin à douter ou à réapprendre à douter. Le verset, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il n'est pas question ici de douter de Dieu, ni de sa bonté,
de soi.
De douter de soi. Il n'y a rien de pire que les gens qui sont sûrs d'eux et qui, en fait, ne se remettent et ne... Il arrive parfois que ces mêmes gens courent à une terrible catastrophe, pour ne pas dire... En même temps, ils entraînent les autres avec eux. Dans des choix, dans des non-remises en question, où mari et enfant, entraînant eh bien, des gens dans des situations où ils se sont emmêlés et ils ne s'en sortent plus. Réapprendre à douter à nos choix, à nos décisions, à nos projets, en fait, n'a rien de malsain. Mais bien au contraire, finalement, même si nous avons prié surtout pour une direction, pour lui demander la validation de nos projets, va accepter l'idée qu'on se remette en question. Et c'est tout à fait sage. Ils ne veulent pas se remettre en question quant à leurs choix, quant à leurs idées, quant à leur philosophie de vie. Je parle d'une manière générale. Et peut-être lié aussi avec l'orgueil. Romains, dites-vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Les personnes qui sont si sûres d'elles refusent parfois de parler avec des gens qui vont les mettre sur le... comme dans une parenthèse en se disant « mais en fait, il me dit ça, peut-être que c'est moi qui me suis trompé. » Et ils ne veulent pas. À ce grand gaillard qui s'appelait Saül qui se faisait remarquer, non pas parce qu'on lui demandait de se lever pour l'honorer, mais il se faisait remarquer malgré lui par sa hauteur. Tout le monde d'une tête. Donc... dans une foule, on savait, il suffisait de chercher. Ah, il est là-bas. On savait où était Saül. Et nous savons que le peuple qui ne voulait plus que Dieu dirige, le peuple ne voulait plus être dirigé par Dieu, mais voulait ressembler eh bien, aux autres nations, voulait un roi, eh bien Dieu a pris ce garçon, ce Saül. Et avant qu'il ne soit épris d'orgueil et de malveillance à l'égard de celui qui viendra son successeur, eh bien, il nous est dit qu'il était, c'est l'image que ça donne ici, il était tout humble au point qu'il se cacha. Il est dit dans 1 Samuel 15, 17, que tu étais petit à tes yeux. Il s'est caché dans les bagages. Lorsqu'on savait que c'était lui qui était loin pour devenir roi, et quelle affaire ? Premier roi d'Israël, donc c'était, il s'était caché dans les bagages. Quelques-uns auraient dit... Je suis là. Le prophète Samuel vient vers moi. Regardez-moi, c'est moi. Vous allez voir ce que vous allez voir. Maintenant, vous voulez un roi, c'est moi. Il n'a pas réagi comme ça. Mais il était tellement, comment dirais-je, il se remettait tellement en question, se ressentant le poids de la responsabilité qu'il ne se sentait pas capable. Il préférait se cacher. Lorsque tu étais petit à tes yeux, il n'était plus petit à ses yeux. C'est un homme qui ne savait plus se remettre en question, en partie. Vous avez le droit de douter de vous. Il y a le bon, et puis il y a le mauvais. C'est juste une question de dosage. Une question d'équilibre. Trop de doute peut finir par nous détruire. Détruire notre vie. Mais ne jamais douter de soi revient finalement au même. Savoir se remettre en question. Parfois, il y a J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, c'est même un... Bon, je ne vais pas dire qui c'est, enfin, c'est, il n'est pas ici, mais... Bon, ben, je vais dire, c'est un pasteur. On commence à peu près une année avant, on parle des changements. Alors, qu'est-ce qu'un changement, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est que, par exemple, on va demander à un pasteur qui est déjà dans une église... Tiens, voilà, je vais prendre mon exemple, c'est comme si le pasteur de... S'il faut le faire, on le fera, mais... C'est comme si le pasteur de Dunkerque me disait « Stéphane, je pars à la retraite, est-ce que tu voudrais me remplacer ?» C'est ça un changement. Et après, bon, il y a tout un processus. On demande au Seigneur, « Seigneur, t'es sûr ?»« C'est pas toi ?»« C'est pas pour Dunkerque, c'est pour Lille. »« Oh, Seigneur, c'est encore pire, presque. Hein. » Bon, admettons, c'est de l'humour. Si le Seigneur donne, enfin, voilà, il faut le vivre pour le ressentir. Si le Seigneur eh bien, dit « Oui, bon, bah, on ira à Dunkerque. » Si le Seigneur dit non, voilà. Donc c'est ça un changement. Et alors ce brave frère nous disait, parmi d'autres pasteurs, j'ai fait un rêve. Ben, je ne sais pas s'il se prenait pour Luther King, mais il n'a pas fait le rêve de la paix, mais il se voyait dans une église. Alors on sait que parfois, lorsqu'on est travaillé par des situations, on peut en rêver. Vous le savez, la Bible en parle. Quand on est dans des situations qu'on est un peu perturbé ou pas d'ailleurs, où il faut faire attention et ne pas s'appuyer simplement sur un rêve. On sait que Dieu peut parler à travers un rêve. Et d'ailleurs, on appelle ça des songes. Ce n'est pas un rêve ordinaire. Voilà. Donc, vous voyez, comme quoi, il faut à soi-même en se disant, est-ce que c'est bien Dieu ou est-ce que ça vient de moi? Et d'ailleurs, c'est tellement vrai, même Gédéon, qui a eu une parole de Dieu, a remis, pas en question la parole de Dieu, pardon, sa compréhension à la parole de Dieu. Seigneur, je vous le dis avec mes mots, si tu veux que ça soit comme ça, permets que la toison soit sèche et qu'autour ce soit mouillé. Ça a marché, comme il avait demandé. Alors il a redemandé à Dieu, Seigneur, si c'est bien toi, permets que la toison soit mouillée et que l'extérieur soit sec. Voilà. Il a eu l'approbation de Dieu. Donc c'est ça. Et combien d'hommes et de femmes pensant que Dieu leur avait dit. Et bien des personnes ont loupé certaines situations, des occasions, voire même ont loupé, je me tairai ici, de dire leur vie, parce qu'ils pensaient que Dieu leur avait dit. Sauf que Dieu ne leur avait rien dit. Et parfois, excusez de le dire ainsi, prennent leurs désirs pour des réalités. Oui, Dieu ne trompe pas. Dieu ne nous trompera jamais, parce que le père du mensonge, c'est le diable, nous dit la Bible. Dieu ne ment pas, et donc lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, et Dieu, justement, est honoré quand on lui demande conseil, Seigneur, c'est pour ça qu'il faut apprendre à douter de soi. Dans le livre des Juges, au chapitre 16, versets 4 à 21, nous allons faire la lecture. Juges 16. Un homme qui avait un parcours extraordinaire, un juge dans la Bible, rien à voir avec le juge du tribunal. Quoique. Mais c'était un homme de Dieu qui avait cette onction sur lui. Je rappelle, ne pouvait pas avoir d'enfant. Dieu a permis qu'ils aient un enfant. Et cet enfant s'est fait appeler Samson. Et ce garçon, Samson, avait une particularité, c'est que avant même qu'il ne soit au monde, Dieu avait mis son regard sur lui, il l'avait mis à part pour qu'il puisse eh bien, être au service de Dieu. Juges 16, verset 17. Mais voyez-vous, le problème de Samson, c'est dans ses sentiments. Il voulait vraiment marcher avec Dieu, mais en même temps, à côté de ça, il avait un pied pour marcher dans la volonté de Dieu. Et d'un autre côté, il avait un pied qui voulait marcher eh bien, selon sa volonté, ce que chair, c'est-à-dire les choses de ce monde qui peuvent eh bien, détruire les uns et les autres. Et c'est un homme, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser de lui, c'était pas un homme qui collectionnait, excusez de le dire ainsi parce que je cherche à dire les mots sans choquer personne. C'était pas un homme avec un cœur au cœur d'artichaut, vous connaissez cette expression? Ah, toi t'es belle, je t'aime. C'est la multiplication des... C'était pas cet homme-là. Mais souvent, les femmes étaient... en lien dans sa relation. Et là, voilà qu'il va se retrouver de la chute. Et ne se remettant pas en question, cet homme va louper sa vie. Verset 16, verset 4, chapitre 16, verset 4, il est écrit. Dans la vallée de Sorek, elle se nommait Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maître de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chaque... » Delila dit à Samson « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Déjà, l'expression « dompter » sera dû... On dompte les animaux, pas ce terme. On dresse des chiens, des chats, un petit oiseau, voilà. Mais on dompte les animaux sauvages. Et là déjà, cette expression « dompter ». Samson lui dit, « Si on me liait avec ne fût-ce pas encore ça, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delila cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche et le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle. Il rompit les cordes comme on rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delila dit à Samson, etc., etc. Écoutez, je ne vais pas vous faire la lecture, parce que ça va être trop long. Mais voilà, à plusieurs étendues, d'où venait sa force. Vous le lirez à la maison. Mais au verset 17, il est écrit, « Il ouvrit tout son cœur. » Il y a des choses que Dieu peut nous donner. Et j'espère quelque chose à nous, vous savez le garder. Il y a des choses qui ne se partagent pas. Il y a des choses que l'on doit garder secrètes dans notre cœur. Et quand Dieu nous dit quelque chose, alors il faut le nourrir, l'entretenir. Et ici, au verset 19, il est écrit, « Il perdit sa force. » Et au verset 20, il dira, « Je m'en tirerai comme les autres fois. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il avait cette conviction que, voilà, sauf qu'il ne s'était pas remis en question. Et voyez-vous, il avait bon à avoir cette conviction, en disant, oh, c'est pas grave, je vais m'en tirer comme les autres fois. Il n'était pas remis en question. Il ne savait même pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Mais c'est tragique. Et nous savons que la fin de sa vie, il servira de bête de somme à tourner du moulin à grains, enfin, ou à pressoir à huile, enfin, peu importe. Humilié, les yeux crevés, parce que les Philistins lui crèveront les yeux, et les Philistins qui étaient en haut avec leur famille, rigolèrent, homme puissant, où l'Éternel était avec lui, où ils avaient eu à souffrir avec lui, eh bien, il n'y avait plus rien. Et alors cet homme tournait. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il va se souvenir de Dieu, et le garçon qui sera à côté de lui va lui donner de toucher les colonnes. Il va pousser les colonnes parce que Dieu va lui donner à nouveau cette force. Mais voyez-vous, tout ce qu'il a loupé parce que cet homme ne s'est pas remis en question. Vous avez le droit de douter de la situation dans laquelle vous vous trouvez et de dire, mais si c'est récupérable. Ne jamais douter de soi, ça nous conduira toujours ou souvent à des erreurs. C'est important de dire, est-ce que c'est bien dans ta volonté? Alors, bien sûr, si. La femme, elle regarde le frigo, elle dit, ah, il y a un yaourt qui n'a pas été mangé. Il dit, fais un gâteau. Elle l'a pas fait. Presque, elle aurait pu me dire, bah, t'as qu'à le faire toi-même. Mais elle ne me l'a pas dit. Mais quand on fait un gâteau, yaourt, vous avez compris, hein? On met même... Non, alors, c'est pas le bon exemple, parce qu'on ne met pas de levure dedans. Oui, on en met ou pas? Oui, bah bien sûr, vous voyez, je doute. Mais là, c'est pas de levure, ça va être une galette. Mais c'est pas grave. Donc, ne doutez pas surtout. Hein. Mais quand je parle de doute, c'est les doutes de nos choix qui auront des conséquences dans notre vie éternelle. Un autre exemple. Un garçon qui a vécu des choses comme Samson, des choses extraordinaires. Un garçon qui était à l'écoute, un garçon qui a su observer, qui était baigné dedans, dans le palais du roi. Un garçon qui a vu son père pleurer, sans doute, plusieurs fois. Son père se remettre en vue des hauts et des bas dans sa famille, dans la famille de David, son père. Ce garçon qui était à la cour du roi, bien sûr, et il avait, voilà, mais il avait quelque chose qui était en plus que simplement manger tous les jours à la table du roi, d'être chéri, d'être aimé. Dieu l'avait choisi pour succéder à papa. Et c'était un garçon, nous dit la Bible, on n'a jamais connu de richesse. Sagesse. Voilà. Et ce garçon, qui donc s'appelle Salomon, a vécu des choses extraordinaires. Regardez le témoignage que l'on donnait sur le roi. Verset 6. Écoutez bien le témoignage. Or, d'elle-même, donc c'est la reine de Séba qui va venir, elle a entendu dire que là, il y avait un roi qui... Quoi ? Même elle n'avait pas... Elle voulait savoir, parce qu'elle qui était reine, voulait savoir quelle était la particularité de ce roi. Elle avait entendu le témoignage dans son pays. Il est écrit, « Hors d'elle-même, elle dit au roi, « pris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas. » C'était tellement extraordinaire. Avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. On avait des mois. Elle ne croyait pas, tellement que c'était extraordinaire. Et elle arrive et dit, mais ce qu'on m'a dit, mais on ne m'en a dit que la moitié. Cette femme était... Bah. Deux chroniques, chapitre 9, au verset 22. Au verset 23, le roi Salomon fut plus grand par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Wow, extraordinaire. Qu'est-ce qui le rendait extraordinaire ? C'était un homme, hein ? Et c'était la présence de Dieu dans sa vie. J'aimerais vous dire, mais vous ne vous rendez pas compte. Mais quand on accepte que Dieu vienne dans notre cœur, dans notre vie, soit au centre de notre cœur, au centre de notre vie, elle change. Et on le sait, on a un exemple. Ce n'est pas pour se mettre du tout en avant, parce que c'est... je m'en fiche, mais c'est juste pour vous donner... Parce que j'étais étonné, on n'a rien fait pour. Un jour, on va, avec ma femme, on va à l'hôpital, on va visiter. Eh bien, c'était... Non, c'était pas le tien. Non, c'était un autre petit. Enfin, peu importe. Et on va voir ce petit, on voit le papa, la maman. Puis à un moment donné, le papa et la maman, ils s'éclipsent. Alors, Anne et puis moi, on était là, donc petit. Et puis, il y a deux personnes de l'hôpital qui arrivent. Alors, je ne sais pas si elles étaient soignantes, infirmières. Des fois, on a du mal à savoir, hein, avec leur tenue. Un coup, c'est blanc, un coup, c'est... Puis en fait, je m'en moquais, ça ne m'intéressait pas. Alors, il y avait... Deux femmes d'un côté, puis moi j'étais assis sur le... Mais on faisait rien de particulier, on parlait pas au petit, oh que j'ai... Non, rien. Et puis elles partent. Puis une des deux qui revient, puis je vous dis avec mes mots, hein, elle dit, mais vous êtes enceinte. Oui, c'est ma femme, je suis sur... Oh, vous dégagez quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, je ne lui ai pas dit ça. On sent que c'est un couple comme ça. Des couples, on en croise tous les jours. D'accord ? Mais moi, ce que je crois, c'est son interprétation, elle. En fait, ce qu'elle voulait dire, elle ne savait pas l'exprimer. C'est qu'elle sentait la présence de Dieu. L'onction. Enfin, je veux le croire. Ils n'ont plus l'onction. Donc, ce n'est pas une question de titre. C'est une question de chrétien. Et chacun d'entre nous, chaque chrétien, de l'Esprit de Dieu, c'est les arts de l'Esprit. Chaque chrétien qu'on accepte Jésus par la repentance, après de croire en Dieu, de passer par la repentance, de l'accepter dans son cœur, de s'engager dans les eaux du baptême, dire « Jésus, je veux que tu sois au centre. » Là, au centre. Et tout gravite autour, au centre de mon cœur. Ah, Dieu prend sa place. La Bible dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, là. Donc, par logique, hein, vous et moi, voilà. Mais voyez, simplement pour revenir sur ces femmes, sur cette femme, les deux, hein, si elles se sont parlé, j'ai dit, ma collègue, tu n'as pas senti. Elles ont ressenti Dieu, la présence de Dieu dans son cœur, dans sa vie. Vous avez une vie tout à fait normale. Mais lorsqu'on est au travail, on sent. Ah, on sent que cette personne est différente. Dans son parler, dans ses expressions verbales ou physiques, dans son sérieux, dans son engagement, on sent qu'il y a quelque chose. Et vous voyez qu'il y en a quelques-uns qui suivent, c'est bien Muriel. C'est la femme à Bruno. Ça va tomber. Il a reçu quelque chose. Mais voyez-vous cet homme qui a eu deux visions de Dieu. Vous avez déjà vu Dieu, vous ? Une vision de Dieu, vous l'avez déjà eu, la vision de Dieu ? Lui, il en a eu deux. Il se sentait incapable de gérer ce peuple qui était là. Il se sentait petit. Et Dieu veut dire en quelques mots, puisque tu n'as pas demandé une longue vie, pas de richesse, la mort de tes ennemis ou quoi, je te bénirai. Et c'est de là qu'il est devenu le plus grand roi que le monde n'ait connu, après Dieu, parce que c'est qu'un homme, et l'homme qui a eu une sagesse extraordinaire. La catastrophe. 1 Roi 11, verset 1. Roboam arrivé à Jérusalem, rassemblé. Non, c'est pas là. Pourquoi tu dis 1 Roi ? Tu es dans 2 Chroniques. Verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens. Il dit aux enfants d'Israël : vous n'irez point chez elles. Elles ne viendront point chez vous, car. Chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes, en fait, là, il y avait. Alors, c'est sûr que le chiffre. Bonjour. Je suis votre femme. Oui, on s'est vu il y a 3 ans, par exemple. Vous imaginez? J'imagine la situation. Mais au-delà, parce que ça, c'était une preuve de richesse pour un roi. Mais c'était beaucoup d'orgueil, en fait. C'était pour asseoir son harem. C'est de Dieu, hein, d'ailleurs. Puisque la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'est pas question de faire de la polygamie. Hein. Donc là, vous voyez, une non-remise en question. C'était de l'orgueil. Je suis le roi Salomon. Regardez mon harem. Et encore, écoutez bien, à l'époque, donc on a dit, ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Père, je veux dire, et grand-père, nous avons une haute responsabilité. La transmission de ce que nous avons reçu à nos enfants et peut-être arrière-petits-enfants. Et ça, c'est valable pour les hommes, mais c'est valable aussi pour les femmes. Nous avons une haute responsabilité. Des fois, il y a des parents qui pleurent. Dans les maisons, pas tout. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Un jour, je voyais une grand-mère à la maison de retraite. Elle était toute pimpante. Mais c'est pour vous donner une idée. La boum, le film La boum. Les jeunes, ils ne savent pas. Hein. Nous, ça nous fait un coup de vieux. Hein. La boum, avec Sylvie Varceau. C'est ça ? Quoi ? Oui, bon, c'est bien. Moquez-vous. Voilà. Mais il y avait une grand-mère dans l'histoire. Vous vous rappelez la grand-mère ? Elle était toute pimpante, tout ça. Alors, cette femme, cette chrétienne, je la voyais un peu à cette image. Il y avait son fils. Le fils.
Le fils, le fils. Et les filles, nada. Nada, les filles. Et cette femme était chrétienne. Mais ce n'est pas le tout de le dire, c'est de l'être. Remise en question. Se remettre en question. Vous savez, il y a des gens, je comprends le respect des aînés. Moi, quand je suis assis, quelqu'un vient me voir d'une manière générale. En général, pardonnez-moi si il m'est arrivé de ne pas le faire, en général, je me lève. Ça s'appelle du respect, enfin, ça s'appelle du respect. Parce que de rester assis, salut, ça va ? C'est bon, tu me dis bonjour, d'accord, mais tu ne me dis pas bonjour, c'est pareil, quoi. C'est du respect. Et parfois, les anciens, c'était eux de revenir. Qui c'est le père ? Qui c'est la mère ? Oui, mais quand on est chrétien, ça change. Quand on est parent, il faut savoir se remettre en question et se dire, peut-être que ça serait bien que moi j'aille vers mon fils. Et ce que je suis en train de dire, c'est biblique. Hein ? Le père du fils prodigue, il ne s'est pas dit, ah ça y est, l'autre y revient là maintenant ? Eh ben dans l'état qu'il est celui-là. On revient chez papa. C'est pas ce qu'a dit le père. Le père tous les jours, il regardait pour voir si le fils arrivait. Jusqu'au jour, de loin. Alors au lieu de dire, ah ben voilà, je suis content qu'il vienne, hein, mais c'est à lui de venir. Hein. Ah, t'es là ? Bon, allez, passe par le commencement alors, tu demandes pardon ? Il n'a pas fait ça le père. Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous le savez tous. Le père, il avait la djellaba. Rigolez pas, moi j'en ai une à la maison. Ben, si vous ne le faites pas, si vous faites pas ça, vous tombez. Donc, il a relevé la djellaba. Mais c'est aussi, ça s'appelle de l'humilité. Et le père, il a couru vers le fils. Il a pris le fils dans ses bras. Et après, le fils a dit ce qu'il devait dire. Alors les anciens parmi nous, peut-être que vous êtes fâchés avec vos enfants. Écoutez bien, c'est sérieux ce que je dis. Hein. Même avec vos petits-enfants. N'attendez pas qu'ils reviennent. Montrez-vous l'exemple, parce qu'ils ne le sont peut-être pas. Et de se dire, mon fils, je ne veux pas te déchirer avec toi. Ma fille, rétablissez les choses. Remettez-vous en question. C'est tellement... Je continue. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla vers, après Astarté, divinité, et après Milcom. L'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point plein des pères. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh. Et Kémosh, en fait, était la signification de son nom n'est pas connue. Mais certains érudits pensent qu'il peut signifier soumetteur. Voilà à quoi en était arrivé Salomon. Et puis, l'abomination de Moab est pour Moloch. Moloch était une idole qui était représentée par un homme avec une tête pour qui on sacrifiait des êtres humains, voire plus précisément des enfants. Voyez à quoi était arrivé le roi Salomon ? Parce qu'il y avait une non-remise en question de sa vie. On a le droit de se tromper. Qui ne s'est jamais trompé ? Levez la main. Donnez-moi la recette. On se trompe les uns les autres. Ça peut arriver. Mais se tromper, c'est une chose. Mais c'est de reconnaître, de se remettre. Et quand on en est dans la capacité de se remettre en question et de rétablir les choses, et faisons-le. Si quelqu'un, ce quelque chose n'est pas bon, s'il ne rétablit pas les choses, il est dans le péché. La vie de Salomon finira, il sera recueilli. À la différence de son père David, on a de cesse de parler de lui. Il est une référence. Il est une référence pour les autres nations. Il est une référence pour son peuple. Que dira-t-on ? Alors, c'est où ? Tu l'as mis où ? Je me parle à moi. Hein. Je ne l'ai pas noté. mais pour dire que dans un autre livre, on pense encore à l'histoire de Salomon. Qu'il avait été de Salomon. De Salomon. On parle encore avec ses femmes. On rappelait ses souvenirs comme quoi nos erreurs, nos non remises en question peuvent avoir des conséquences même dans les années qui suivent. En disant, ah oui, il était, c'est un bon frère, il était gentil. Hein. T'es une brave soeur, t'es gentil. Mais voilà. Mais toute son importance. Mais voilà, il s'est loupé. Alors que c'était tellement simple de se remettre simplement en question. De se remettre en question. Et de dire, Seigneur, eh bien, là, je me suis trompé, mais Seigneur, obéissance. Je veux être dans l'obéissance. À moins que vous ne vouliez pas vous remettre en question et que vous voulez et vous savez que vous êtes dans l'erreur. Dans ce cas-là, ça c'est 15-23, il est écrit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Oh, quand même, la divination, c'est quand même, c'est ténébreux, non? C'est diabolique. C'est aussi coupable que la résidence. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi comme roi. C'est écrit dans 1 Samuel 15, 23. La désobéissance. Vous rendez-vous compte que, quand même que ceux qui ont son temps pratiqué les choses ténébrines et se sont convertis, ben, s'ils sont dans la désobéissance, ben, c'est comme s'ils pratiquaient encore. Comme quoi la désobéissance, on peut dire « Oh, ça, je peux bien faire ça quand même. Faut pas. » Moi, un jour, quelqu'un me disait en quelque... Oh, si tu savais, hein, il y en a d'autres. Mais, vous voulez que je vous dise? Mais on s'en moque. Mais on s'en moque. C'est les autres, chacun sa responsabilité. Je dois pas quelqu'un... Alors, si demain, le pasteur devient tordu, imaginez que demain, le pasteur, il vient avec une autre épouse que la sienne. Vous allez dire, oh, c'est la vie du pasteur. Ben, je vais faire comme lui. Vous êtes bien conscient que le pasteur serait dans l'adultère, vous le mettrez dehors. Non, mais je parle de moi, là. D'accord? Eh bien, d'accord. Parce que si vous dites rien, si vous fermez les yeux en disant « Oh, eh bien, ça démontrerait que vous n'êtes pas pire que moi. » Ça voudrait dire que vous-même, vous avez des péchés cachés. Non, il faut savoir se remettre en question. Et je termine. Vous pouvez commencer à... Un roi 22. Et c'est la fin. Un roi 22, verset 18. 1-18. On rentre la Syrie et Israël. À la troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie ?» Il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi ? Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, qui lui était roi de Juda, Josaphat, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla des prophètes aux environs. Où dois-je y renoncer ?» Ils répondirent, « Monte ! Et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Et il sentait qu'il y avait une embrouille. Faux prophète, les gars. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise à rien de bon. Il ne prophétise que du mal. » Ben oui, forcément, il allait à son chez. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir de suite Miché, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, tous les prophètes prophétisaient devant eux. Verset 34. Lui va rétablir les choses. Verset 16. Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Ça, c'est Akab qui dit ça. Michée répondit, « Je vois tout disant de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne le t'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal, il n'est pas gentil. » J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et on termine avec le verset 34. « Alors un homme tira. » Josaphat était sur le terrain de guerre. Il nous est dit qu'un ennemi va tirer. Alors un homme tira de son arc, écoutez bien, au hasard. Dieu, et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse, c'est-à-dire là où il y avait les articulations. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille. » Et mort. Avez-vous un défaut dans votre cuirasse? Alors acceptez de vous... Ne doutez jamais de l'amour de Dieu pour vous. Ne doutez jamais de la fidélité de Dieu pour vous. Ne doutez même pas de la présence, de l'existence de Dieu. Dieu est bien vrai. Et je vous invite, si vous avez besoin, vous qui connaissez, vous connaissez un peu, avec les balbutiements, vous commencez, mettez Dieu à l'épreuve. C'est pas négatif en disant ça. C'est de dire simplement à Dieu, « Dieu, si c'est vrai que tu existes, montre-moi, prouve-moi. » Par des petits détails, parfois par de grandes choses, selon vos besoins. Mais ne doutez jamais de l'existence de Dieu. Ne doutez jamais de l'amour que Dieu vous porte. Il vous aime au point qu'il en est mort sur la croix. Mais si vous êtes dans un projet, dites-vous bien, est-ce que je suis bien dans le plan de Dieu ? Seigneur, je préfère reculer le projet, mais être sûr que ça vient vraiment de toi. Je ne veux pas me tromper. Pourquoi ? Parce que je veux que tu sois au centre de ma vie. Je veux vous dire oui. Ou peut-être simplement voir Dieu vous dire non. Mais ce n'est jamais pour faire le patron. Dieu n'a rien à prouver à personne. C'est juste pour vous garder, vous protéger. Alors comprenez que c'est savoir se poser et dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Alors on va prier, vous voulez bien ? Je vous invite à fermer vraiment vos yeux et peut-être m'adresser, enfin pas peut-être, j'aimerais m'adresser à ceux et à celles qui, peut-être là, sont dans des loupés, se disent « mais je ne me suis jamais mis en question » ou « je n'ai pas voulu me remettre en question ». Est-ce que c'est possible que Dieu, régulièrement, Dieu change les temps et les circonstances, Dieu ne se repent ni des appels qu'il fait, ni des dons qu'il accorde. Faut-il encore dire, bien Seigneur, je te demande pardon comme le fils prodigue ? Et vous êtes trompé ? Ok. Si vous vous remettez en question en disant, ben Seigneur, voilà où j'en suis ? Ok. Alors attendez-vous à Dieu pour que Dieu puisse rectifier les choses avec votre accord. Et j'invite ceux et celles qui peut-être sont dans cet état d'esprit ou vivent. Il faut avoir beaucoup de courage pour lever sa main, pour dire, ça me concerne, je me sens responsable de ça, je sais que j'ai fait une erreur. Voilà. Ça peut être humiliant pour soi-même. Y en a-t-il encore d'autres qui ont besoin de lever leurs mains ? Voilà. Alors, je vous invite. Voilà, c'est votre affaire à vous. C'est vous que ça engage. Voilà. Alors, on va prier. Je vais demander à Yves de prier pour ces personnes qui ont levé leurs mains, s'il te plaît. Et à l'issue du culte, je rappelle, en attente de jeûne et de prière, nous avons 10.
Seigneur, et qu'ils s'inclinent devant ta face et qu'ils reprennent le chemin que tu as tracé.